Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Cette théorie du complot, elle a toujours existé, simplement elle ne se manifestait pas de manière aussi ouverte et aussi publique qu'aujourd'hui.
Pierre Barthélémy est ce qu'on appelle un passeur de science. C'est d'ailleurs le nom du blog que tient depuis 6 ans ce journaliste scientifique au sein du journal Le Monde. Il tient le dur métier de vulgarisateur scientifique. Alors dur pourquoi ? Parce que la méfiance et les théories du complot attaquent aujourd'hui les fondements même de la parole scientifique et remettent en cause des évidences qu'on croyait acquises dans bien des domaines. L'histoire, la science, l'astrophysique. Alors qu'est-ce qui a changé ?
On se rend compte depuis longtemps, et ça, la science n'échappe pas à ça, hein, qu'il y a une défiance croissante dans tout ce qui est autorité, dans toute la société. Ça touche le politique, l'économique, la justice, etc. Il n'y avait pas énormément de raisons que ça ne touche pas la science à la fin. Pourquoi je dis à la fin ? C'est vrai que la science a quand même une espèce de protection, puisqu'il y a quand même il y a quand même une certaine objectivité, une certaine neutralité qui touche aux questions scientifiques. Après, c'est vrai qu'on a un certain nombre de dossiers, d'affaires, que ce soit où des experts sont intervenus plutôt à mauvais escient. On se rappelle des histoires comme Tchernobyl, il y a des histoires de sécurité alimentaire. Effectivement, la parole des experts est souvent remise en doute. Là, on voit dans une actualité beaucoup plus récente ce qui se passe, les querelles autour du glyphosate, comment certains chercheurs sont embrigadés dans des dossiers. On voit aussi ce qui se passe sur des affaires qui touchent à la santé, que ce soit par exemple le lévothyrox ou que ce soit d'autres affaires sur les médicaments. Les vaccins aussi, où des personnes qui sont scientifiques interviennent. On a vu notamment récemment Luc Montagnier, qui est prix Nobel quand même de médecine, intervenir dans une espèce de chose où il remettait en cause la sécurité vaccinale. On a l'impression que la figure du chercheur n'échappe plus à cette défiance généralisée envers les autorités et qu'on oblige d'une certaine manière, avec la manière dont les médias fonctionnent aujourd'hui, les chercheurs à descendre de leur tour d'ivoire, où ils étaient bien contents de rester quand même, il faut bien le dire, où ils sont restés pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, ils ont une obligation plus grande de s'impliquer dans la société, et du coup, forcément, ils prêtent le flanc à des critiques.
Quand certains pensent encore que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, d'autres essayent de démontrer à tout prix que la Terre est plate. Imaginez, il existe même une Flat Earth Society dont le nombre de membres va croissant. Imaginez encore, il y a même un type qui veut décoller avec une fusée pour prouver que la Terre n'est pas ronde. Au final, il va juste réussir à prouver la supériorité de la connerie humaine. Comment peut-on se mettre des trucs pareils en tête ?
On se rend compte dans les enquêtes qui sont faites soit au niveau national, soit au niveau international, qu'un certain nombre de choses qu'on croit acquises ne le sont pas. Par exemple, si vous faites un sondage à grande échelle, un vrai sondage sur qu'est-ce qui tourne autour de l'autre, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, vous allez vous rendre compte que ce qu'on sait ne va pas de soi pour une grande frange de la population. Et ce sont des chiffres qui sont extrêmement stables depuis des décennies. Donc la question qui se pose derrière tout ça, c'est la question de l'éducation, l'enseignement des sciences dans la jeune population et dans la moins jeune aussi, de toute façon. Et on se rend compte qu'il y a quand même des carences assez monumentales, quoi. On fait ces tests, ils sont faits de manière international depuis des décennies et les résultats sont étonnamment stables. Donc, c'est pas non plus étonnant que ce genre de choses ressortent à la faveur d'une médiatisation beaucoup plus facile qui est liée aux réseaux sociaux et à Internet. Hein. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ces discours-là ne ressortaient pas de manière publique, mais ils existaient, ils ont toujours existé depuis très très longtemps. Donc là, ça ressort parce que c'est effectivement beaucoup plus facile de médiatiser un discours. En plus de ça, ça fait le buzz, vous voyez comment ça marche. On en parle, ce gars monte sa fusée, certains espèrent qu'elle explosera avec lui dedans et qu'on ne parlera plus de cette histoire. Ce monsieur, si jamais il monte dans sa fusée, ce que je ne lui souhaite vraiment pas, il est obligé, pour faire décoller sa fusée, de tenir compte des lois de la physique qui montrent que la Terre n'est pas plate. Et il va être obligé de prendre en considération le fait que la Terre est sphérique si jamais il veut vraiment décoller. Donc il y a aussi des contradictions, des paradoxes.
Bon Pierre, là, il faut nous aider. Quand quelqu'un croit dur comme fer que nous ne sommes pas allés sur la Lune, qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Bien sûr qu'on peut prouver qu'on allait sur la Lune, il suffit simplement parce qu'on a rapporté des centaines de kilos de cailloux de là-bas et qu'on ne peut pas faire des... Ces cailloux-là n'existent pas sur Terre, ils n'ont pas la même composition sur Terre. Après, ça ne sert à rien de dire ça vis-à-vis de ces gens, parce que de toute façon, ils sont convaincus que tout ce qu'on dira contre leur pensée participe du complot. Donc oui, on peut très bien expliquer qu'il suffit de regarder. On voit sur la Lune les choses qu'on y a laissées, parce qu'on y a laissé plein de choses. On n'a pas tout rangé et tout rembarqué quand on est reparti. Non, au contraire, on a laissé beaucoup de choses. Elles y sont toujours, donc il suffit d'aller regarder. Mais voilà, ça ne sert à rien, parce qu'on dira les images sont truquées, les images sont manipulées. Le discours complotiste, effectivement, il fonctionne de manière complètement paranoïaque et fermée.
Ok, donc il faut croire qu'on ne bouffe pas assez de science à l'école. Des maths, oui, ça, il y en a. Mais le reste, ce qui doit servir de base pour une culture générale scientifique qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, là, ça laisse à désirer. Pierre Barthélémy va même jusqu'à jouer les passeurs de science à l'école.
C'est vrai que moi, j'ai fait toute ma scolarité sans qu'on me parle jamais d'astronomie en cours de physique, alors que c'est la mère des sciences et que c'est avec cette science qu'on peut aborder énormément de choses de manière... ludique même, de manière vraiment passionnante, que ce soit évidemment la physique, mais aussi la biologie, la chimie. On peut faire beaucoup de choses à partir de l'astronomie. Et moi, voilà, force est de constater que je suis allé au collège, au lycée, on ne m'a jamais parlé d'astronomie. Et il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'il y a quelques années, j'avais une petite fille qui était en CE2, je crois, à ce moment-là. Et dans le programme de CE2, il y a une demi-journée dans l'année qui doit être consacrée à l'étude, à la découverte du système solaire. Et l'enseignant de cette classe, qui était un très très bon enseignant, est un jour venu me voir en me disant « Je sais que vous travaillez dans la vulgarisation scientifique. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec cette demi-journée. Est-ce que ça vous dirait à vous de venir faire la présentation du système solaire ? Vous y connaissez mieux que moi. » Et donc, à l'arrivée, je suis allé dans cette école où j'ai fait un exposé à deux classes de CE2. Ils étaient très contents. Mais c'est quand même anormal que ce soit un journaliste, enfin un parent d'élève journaliste qui vienne faire le cours sur la découverte du système solaire. Ça prouve que effectivement, les enseignants ne sont pas forcément bien formés à ce genre de discipline et qu'ils sont mal à l'aise avec ça.
Alors, de par sa position, Pierre Barthélémy se trouve exactement entre le grand public et les scientifiques. Est-ce que lui a noté un changement dans les commentaires de son blog, une évolution dans son rapport avec ses lecteurs ?
Non, moi je n'ai pas noté de changement. J'ai noté qu'il y a une frange, en revanche, à peu près constante de la population qui conteste la validité de la science, qui conteste même la méthodologie scientifique, le fait que la science avance par erreur, progrès, et c'est comme ça qu'on avance, par incrémentation, quoi. C'est rare d'avoir une découverte qui va tout changer. Ça arrive hein, parfois, mais c'est rarissime. Le reste du temps, on avance petit à petit. Et justement, on passe son temps à remettre en cause ce que les anciens ont dit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et certains ont l'impression qu'on passe son temps à se confirmer les uns les autres et que la science est un grand corps qui fait complot contre le reste de l'humanité, quoi.
Et pourtant, le paradoxe dans cette histoire, c'est que la science est partout. Impossible de ne pas penser au proverbe qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, Quand l'idiot regarde la Lune, il oublie de regarder ce qui se passe autour de lui, voire même dans sa propre poche. Car son téléphone, pour prendre l'exemple le plus concret, est un concentré des technologies qu'il peut refuser en bloc. Et pourtant, un vrai sujet d'interrogation quotidienne.
Enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que effectivement, la technologie, la science et la technologie sont de plus en plus, font de plus en plus partie de notre quotidien. On a tous dans la poche un téléphone portable qui contient plus de savoir scientifique, enfin qui est dérivé de plus de savoir scientifique que aucun objet qu'on n'a jamais fabriqué. La complexité de ces choses, c'est incroyable. Vous avez tout dedans. Vous avez la mécanique quantique, vous avez la relativité générale avec le GPS, etc. On est envahi par la technologie, alors qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas la science qu'il y a derrière. Et effectivement, la suite logique, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui étudie nos comportements à travers ce qu'on fait sur Internet, à travers la manière dont simplement on utilise nos instruments, que ce soit nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc., et qui nous propose des choses qui orientent nos choix futurs sans même qu'on s'en rende compte parfois. Et c'est pour ça que je pense que la science doit être vraiment mieux enseignée et que aussi la vulgarisation scientifique doit être beaucoup plus présente dans tous les médias, tout simplement parce que ce qu'on confie aux outils de la science, on va dire, c'est beaucoup plus que ce qu'on ne leur a jamais confié. On est dans des mondes où, effectivement, on se pose de plus en plus de questions sur notre environnement, la sécurité sanitaire, ce qu'on met dans notre nourriture, dans notre air, dans notre eau, les questions sur le nucléaire, les OGM, etc., etc. Quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui décide de ça ? C'est des industriels qui se basent sur les travaux de scientifiques. Les scientifiques, ils sont neutres, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils disent, voilà, il y a ça. Après, on en fait quelque chose, on n'en fait pas quelque chose. Mais c'est à la société de débattre, justement, de ce qu'on fait, de ces choses-là, de ces découvertes scientifiques, quand elles posent un problème. Mais la société ne peut pas en débattre si elle n'est pas formée, si elle n'est pas éduquée vis-à-vis de la science et des technologies.
Audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.